Nous regardions il y a quelques dimanches à l'attitude merveilleuse de la servante de la femme de Naaman, rapportée en 2 Rois chapitre 5. Cette jeune fille se savait en mission pour Dieu. Nous allons ce soir regarder un autre exemple de personne qui se comprend comme étant en mission pour Dieu. Boaz, dont l'histoire nous est rapportée dans le livre de Ruth, un peuple en mission. Avant de lire le passage que nous allons étudier ce soir, il me semble important de dire quelques mots de contexte. Le livre de Ruth commence en présentant l'histoire d'un couple, Élimélec et Noémie. À la suite d'une famine qui toucha Israël, ce couple dut partir pour s'installer dans le pays de Moab. Élimélec et Noémie avaient deux fils. Ces deux fils se marièrent avec des femmes originaires de Moab. Mais Élimélec meurt. Puis peu de temps après, un autre drame touche cette famille. Ses deux fils meurent également. Nous avons donc trois femmes, trois veuves, qui se retrouvent seules et sans rien. Noémie propose donc à ses deux belles filles de retourner auprès de leur mère, qui, elles, pourront subvenir à leurs besoins. L'une des belles filles accepta et partit auprès de sa mère, l'autre, Ruth, décida de rester avec sa belle-mère, Noémie. Et c'est ensemble qu'elle retourne en Israël. Et c'est alors arrivé à Bethléem que nous commencerons la lecture. Ruth, chapitre 2, c'est à la page 319-320 des Bibles devant vous. Ruth, chapitre 2, et j'invite Marie à venir nous faire la lecture.
Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Élimélec. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse !» Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et vas après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. « Qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. » Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi !» Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, » dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, » lui dit encore Naomi. « Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth la Moabite ajouta « Il m'a dit aussi « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère.
C'est sur la personne de Boaz que nous allons concentrer notre attention ce soir. Selon les traductions, vous pourrez voir son nom rédigé différemment. Moi, j'ai choisi Boaz, qui est l'écriture traditionnelle. Certaines, comme celle-là, mettent Boaz, que l'on dit Boaz de toute façon. Moi, j'ai préféré l'écriture traditionnelle. C'est celle que Victor Hugo utilise dans son poème. Boaz s'était couché de fatigue, accablé. Il avait le jour travaillé dans son air. Puis il a fait son lit à la place ordinaire. Boaz dormait après des boisseaux pleins de blé, et ainsi de suite, ainsi de suite. On fait un peu de culture ce soir également. Boaz, que savons-nous à son sujet? Pas grand-chose. Il est présenté de manière assez sommaire dans ces versets. Un homme riche et puissant de la famille d'Elimelech nommé Boaz. Un homme riche, puissant, qui se trouve en fait être un parent du défunt Elimelech et de ce fait un parent par alliance de Noémie. Cet homme habite en Israël, à Bethléem. Mais ce n'est pas tout ce que l'on sait à son sujet. Boaz est avant tout un homme de Dieu. Verset 4, Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Que l'Éternel soit avec vous. Il y aurait la tentation de croire que ce n'est là qu'une salutation et que cela ne veut pas forcément dire que Boaz était réellement un homme de Dieu. Après tout, nous disons bonjour à quelqu'un. Lorsque nous disons bonjour, nous ne souhaitons pas toujours que cette personne passe une bonne journée. Ça arrive. Ou lorsque nous disons salut, que nous ayons toujours en vue le salut éternel de la personne que nous saluons. Or, c'est bien là l'origine de cette salutation. Je ne sais pas si vous savez, mais Boaz est le premier personnage biblique à utiliser cette expression « Que l'Éternel soit avec vous ». Il est le premier. Et c'est avec cette salutation qu'il salue ses ouvriers. Et ce n'était pas la salutation courante à l'époque. Un shalom aurait été attendu. C'est une salutation que l'on utilise peut-être régulièrement aujourd'hui, mais Boaz est le premier à l'utiliser. « Que l'Éternel soit avec vous. » C'est une salutation, ainsi qu'une prière qu'il formule pour ses employés. Ils souhaitent qu'au sein de leur quotidien, qu'au sein de leur travail, Dieu soit avec eux. Quelle belle prière, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'y a de plus belle prière que celle-là. Que le Seigneur soit avec vous. C'est une prière qu'il faudrait nous approprier. Prions que le Seigneur soit avec nous à chaque instant et en toute occasion. Que l'Éternel soit avec nous lors du quotidien, au travail, en famille, dans les transports, dans les jours de congé. Que le Seigneur soit avec nous. Lorsque nous sommes face à un client difficile, d'un enfant récalcitrant, au milieu des grèves, de la fatigue, du découragement, que le Seigneur soit avec nous. Bien avant que Paul ne dise en Colossiens 3, 16 à 17 que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Bose le vivait déjà. Rien que dans sa salutation, nous avons la preuve que Bose était un homme de Dieu. Le reste de l'histoire va nous le prouver également. Bose est un homme de Dieu qui souhaite le bien de ses employés. Et parce qu'il souhaite le bien de ses employés, il n'hésite pas à briser les codes et coutumes de la société. Je suis réellement frappé de voir la proximité qui existe entre Bose et ses employés. Elle est surprenante. Lui, le maître, fait l'effort de sortir hors de Bethléem pour aller voir les serviteurs et pouvoir les saluer. Surprenant. Puis au verset 13, on le voit manger avec ses employés, qui n'étaient pas forcément tous juifs, ce qui était inimaginable à l'époque. La société juive de l'époque était une société divisée socialement. Il y avait les maîtres d'un côté, les serviteurs de l'autre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les jeunes, les anciens, les juifs, les non-juifs, ainsi de suite. Une société divisée socialement. Les maîtres n'étaient pas appelés à connaître leurs serviteurs. Mais parce qu'il était homme de Dieu, Bose n'a que faire de cette division sociale. Ses employés ne sont pour lui pas que des serviteurs, pas que des salaires à payer et des bouches à nourrir, mais des personnes. Bose est un homme de Dieu, mais plus encore, c'est un homme de Dieu en mission. Relisons les versets 5 à 7. Bose dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Bose, un homme en mission pour Dieu. Nous en avons l'exemple parfait ici avec Ruth. Alors que Bose vient saluer ses employés, il aperçoit une personne qu'il ne connaît pas. Et il demande à son responsable, qui est cette personne ? Ce dernier lui rapporte que c'est Ruth qui est venue demander l'autorisation pour glaner les champs derrière les moissonneurs. Ruth était venue pour récupérer les rejets. Tout ce qui n'avait pas de valeur commerciale. Ruth et Noémie sont sans ressources. Et le seul moyen pour elles de se nourrir est de récupérer les miettes, les rejets, les invendus, les invendables. Bose, un homme de Dieu en mission. Ainsi, il voit quelqu'un dans le besoin. Et que fait-il ? Il agit. Il aurait toutes les raisons de la rabrouer. Il aurait légitimement le droit, étant le propriétaire du champ, de la faire partir, elle, une étrangère qui plus est. Mais non, il voit qu'elle est dans le besoin et il agit pour son bien. Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Reste ici et suis mes servantes. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Prends tout ce que tu peux. Mes hommes ne te dérangeront pas. Plus encore, si tu as soif, va boire ce qui est préparé pour mes serviteurs. Il agit. À midi, il revient vers elle. Et l'invite à manger avec lui et ses employés. Et il ne lui donne pas les restes, mais la même nourriture que ses employés. Et elle peut ainsi manger à satiété. Plus encore, elle peut même garder les restes. Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété, garda le reste. Mais l'aide de Bose ne s'arrête pas là. C'est un homme en mission pour Dieu. Qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirez même pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Laissez tomber exprès certains des meilleurs épis pour que Ruth puisse les récupérer. C'est ce qu'elle fit. Il y eut environ 22 litres d'orge pour elle. 30 kilos, pour donner une indication. 30 kilos. Avec une telle quantité, elle a de quoi subvenir à ses besoins, ainsi que ceux de Noémie, pour un bon moment. Boaz voit quelqu'un dans le besoin, et il agit. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'il se sait en mission pour Dieu. Et parce qu'il sait que Dieu a à cœur ceux dans le besoin. Dans la loi de l'Ancien Testament, il est évident que Dieu a à cœur ceux dans le besoin. Et cela qu'ils soient pauvres, malades, veuves ou orphelins. Deutéronome 10, versets 17 à 19. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve. » Et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. Ou Deutéronome 24, versets 17 à 22. Tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré ni d'un orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclave en Égypte, et que l'Éternel, votre Dieu, vous en a libéré. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour la veuve ou l'orphelin, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Boaz est un homme de Dieu, en mission pour Dieu. Et sa mission, il l'accomplit parfaitement. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est de savoir que parce qu'il se sait en mission, Boaz accomplit la loi à deux reprises, même sans le savoir. Parce qu'ainsi, en subvenant aux besoins de Ruth, il accomplit la loi quant aux démunis. Mais il fait bien plus. Ruth est la belle-fille de Noémie, Noémie qui était mariée avec Élimélec, Élimélec qui était de la famille distante de Boaz. Noémie se retrouve sans aucun bien matériel ni aucun proche. C'est en fait à Boaz, son parent le plus proche, que venait la responsabilité de s'occuper d'elle. Pour la loi de l'Ancien Testament, c'est à Boaz de prendre soin de Noémie et de Ruth. En accueillant Ruth, il subvient aux besoins de Noémie, sa parente. Il accomplit parfaitement la loi, sans même le savoir. Un homme de Dieu en mission. Et sa mission est réellement pour Dieu. Et sa mission aura un impact puissant chez Ruth. Elle tomba le visage contre terre et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Verset 10, verset 13. « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. » Verset 21. « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Voilà une païenne, une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui est touchée jusqu'au plus profond de son être grâce au témoignage de Boaz. Un enfant de Dieu. Quel témoignage puissant, n'est-ce pas ? Boaz est un homme de Dieu. Plus encore, Boaz est un héros de la foi. Et je ne pèse pas mes mots. Boaz est un héros de la foi au même titre que Moïse et Abraham. Je vous l'accorde. Lorsque nous lisons ce livre de Ruth, Boaz n'est, et je crois qu'il faut le reconnaître, pas le personnage le plus impressionnant ou le plus rock'n'roll rapporté dans la Bible. Nous avons des exemples d'hommes de foi qui ont séparé les eaux, qui ont ramené le peuple, qui ont fait construire le temple, qui ont fait la pluie s'arrêter par la prière. Bose, lui, a été proche de ses serviteurs et il a fait preuve de générosité à une veuve et sa belle-mère. Le personnage de Bose pourrait sembler terne en comparaison. Et pourtant, chose surprenante, Bose sera jugé digne d'être présenté dans la généalogie de Jésus. Matthieu 1, Luc chapitre 3. Plus encore, Bose est l'un des rares personnages de l'Ancien Testament dont il est fait l'éloge sans aucune réserve, sans qu'aucun reproche ne lui soit formulé. Bose, au même titre que la jeune servante d'il y a quelques semaines, est le genre de personnage sur lequel il serait possible de passer sans réellement s'arrêter. Alors qu'en fait, ce qu'ils font est tout simplement merveilleux. Bose est un homme de Dieu, un héros de la foi. Je crois que l'Église, de manière générale, s'est trompée sur la compréhension de ce que Dieu attend de nous. Et sur la compréhension de ce qu'est réellement un héros de la foi. Et cela étant le fruit d'une mauvaise compréhension de la foi, d'un amalgame que nous faisons parfois entre foi et religion. Par religion, j'entends acte religieux. Il me semble que parfois nous comprenons la foi comme étant plus un engagement religieux, un ensemble de rites et de pratiques religieuses que nous cherchons à accomplir, plutôt qu'une confiance en Dieu. Ne nous trompons pas, la foi ce n'est pas d'abord un engagement, un serment religieux que l'on prend devant Dieu. La foi ce n'est pas dire à Dieu « je vais essayer de t'obéir en tout point pour que tu sois fier de moi ». Non, la foi c'est mettre toute sa confiance en Dieu. Mettre toute sa confiance en Dieu. La foi c'est reconnaître Dieu pour qui il est. La foi ne peut être vécue avec le regard fixé sur notre propre personne. La foi, c'est regarder à Dieu. Regarder à Dieu. La foi, ce n'est pas des œuvres que nous accomplissons, mais c'est une juste compréhension de la grâce acquise pour nous par Christ sur la croix et une mise en application de cette grâce à tous les aspects de notre vie. La foi, ce n'est pas déplacer des montagnes. La foi, c'est croire en Dieu qui, lui, peut déplacer les montagnes. Un héros de la foi, ce n'est pas quelqu'un qui va par lui-même accomplir des miracles et des prodiges. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui se comprend comme étant en mission pour Dieu. Pour revenir au texte que nous avons étudié il y a quelques dimanches, si Élisée est un héros de la foi, est-ce parce qu'il a permis la guérison de Naaman ? Non. Non. S'il est un héros de la foi, c'est parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et qu'ainsi il a accompli la mission que Dieu lui a confiée. Élisée se savait en mission pour le Dieu trois fois saint. Par la foi en Dieu, il a accompli la volonté de Dieu. La jeune servante est une héros de la foi tout autant qu'Élisée parce que la mission que Dieu lui confiait n'était pas de guérir Naaman, mais de mettre sa confiance en Dieu et de témoigner de son Dieu auprès de Naaman. Bose est un héros de la foi, non pas parce qu'il aurait guéri quelqu'un miraculeusement ou accompli d'autres miracles extraordinaires, mais parce qu'il a mis sa foi en Dieu et qu'il se savait en mission pour Dieu. Dans son quotidien, à son échelle, Bose témoignait de la bonté de Dieu. Il témoignait de la bonté de son Dieu. Si Bose agit comme il le fait, c'est afin que Dieu soit glorifié. Nous aurions tort de ne pas considérer Bose comme un héros de la foi, parce que Bose est une figure de Christ. Il est l'exemple parfait d'un homme de Dieu en mission pour Dieu. Nous avons beaucoup à apprendre de Bose sur la manière de vivre pour Christ aujourd'hui. Comme Bose, nous devons nous comprendre en mission. Aujourd'hui, Dieu nous demande de vivre pour lui jour après jour. Dieu nous demande aujourd'hui de faire notre part. Dieu nous demande de mener une vie de louange et d'évangile. Dieu nous demande d'avoir l'audace de croire en lui. L'audace de croire que rien ne lui est impossible. Et d'être prêt à témoigner de cela. Faire tout pour le bien des autres. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Faire tout pour le bien des autres. C'est ce que faisait Boaz avec ses employés et avec Ruth. Faire tout pour le bien des autres, c'est suivre l'exemple de Christ. Suivre l'exemple de Christ, c'est ce que faisait Boaz. Dieu nous appelle à être ses témoins sur la terre. Je prie que nous arrivions à être remplis de cette pleine assurance en lui. Je prie que nous arrivions à sauter sur chaque occasion qu'il nous donne pour parler de lui. Je prie que nous arrivions toujours plus à une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie que nous soyons transformés à son image. Faire tout pour le bien des autres. Suivre l'exemple de Christ. Un Jésus est quelqu'un qui a aimé ses ennemis. Christ est quelqu'un qui n'a pas reculé devant sa mission. Christ est quelqu'un qui n'a pas regardé à son statut ou au statut des autres, mais qui a aimé au point de s'offrir en sacrifice pour ses ennemis. Boaz suivait l'exemple de Christ sans même le connaître. Nous qui avons ce privilège énorme de le connaître, que nous ayons à cœur de suivre son exemple. Nous sommes aujourd'hui en mission pour Dieu. Amen.